franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'environnement qui continue de se dégrader en Europe et l'eau en particulier.
La vie commence avec l'eau. C'est pourquoi les hommes ont divinisé cette eau. Dans toutes les religions, qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient polythéistes, on entoure cette eau d'un culte. Il était un crime, c'est même le premier crime de guerre, bien avant le procès de Nuremberg, c'était d'empoisonner les sources. Et dans toutes les nations, on mettait immédiatement à mort celui qui s'était livré à ce crime.
Voilà, c'était la voix d'Alain Bombard. En 1966, le rapport quinquennal donc, de l'Agence européenne de l'environnement, dévoilé hier, montre que malgré quelques améliorations, le bilan général, aussi bien européen que français, reste très préoccupant. Hervé Kempf et Marc Lemay, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Hervé Kempf, vous êtes journaliste pour Reporter, le quotidien de l'écologie. Et puis Marc Lemay, vous êtes journaliste et sociologue, spécialiste de la gestion de l'eau. Hervé, qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord de l'avis des experts européens sur l'état environnemental de l'Europe? Et on ne parle pas seulement de l'eau dans ce rapport.
Ben, en gros, ça n'est pas catastrophique, mais ça va quand même pas bien. Et par rapport à ce qu'on prévoyait d'améliorer, eh ben, on n'a pas vraiment amélioré. Que bilan, pas vraiment, ben voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce qui va beaucoup plus mal? C'est la biodiversité. Un grand nombre d'espèces qui sont, selon le jargon du rapport, en situation de conservation défavorable.
60% je crois des espèces protégées. Hein.
Tout à fait. Mm-hmm. Ce qui est aussi plus intéressant, c'est, enfin d'une certaine manière, c'est 70% des habitats sont aussi dans cet état de conservation défavorable, parce que les espèces, elles ne sont pas toutes seules, elles sont dans des écosystèmes. Le rapport montre aussi qu'il y a un problème massif d'artificialisation des sols ou d'étalement urbain, c'est-à-dire qu'il y a de plus... Alors, il y a beaucoup de chiffres dans ce domaine, mais un indicateur intéressant, c'est le taux de fragmentation des espaces. Fragmentation, ça veut dire quoi? Ben, quand il y a des lignes à haute tension, quand il y a des routes, quand il y a des autoroutes, des voies ferroviaires, ça divise les écosystèmes et 30% de l'espace européen, selon ce rapport, est en état de fragmentation avancée. Des soucis aussi sur le plan de l'eau, ça n'est pas catastrophique, mais enfin, il y a quand même 40% des rivières qui sont dans un état dégradé.
On a des
engrais, des nitrates dans les nappes phréatiques. On a aussi des effets en surpêche sur les fonds marins. Ceci dit, la surpêche est moins grave que ça n'était le cas il y a 5 ans. Donc là, il y a quand même un progrès.
Les efforts ont payé, peut-être,
ils ont
dans
payé,
ce domaine.
Même s'il y a toujours quand même une surpêche importante sur un grand nombre d'espèces. Et puis, ce que l'on peut signaler, c'est une situation toujours importante en matière de pollution de l'air, notamment sur l'ozone. Il y a ce chiffre tout à fait étonnant que 98% des personnes vivant dans des villes ou dans des zones urbaines en Europe sont au-dessus des normes recommandées par l'OMS. Problème aussi avec les PM10, les petites particules, toutes petites micrométriques qu'on inhale dans les poumons et qui concernent aussi la majorité des citoyens urbains. Des améliorations, pour conclure rapidement, sur les déchets. Oui. On produit toujours beaucoup de déchets, mais la situation s'est améliorée. Et j'ai le plaisir de vous apprendre que chacun d'entre nous, nous ne produisons plus que 1817 kilos de déchets chaque année. C'était beaucoup plus il y a 5 ans.
Le taux de recyclage des déchets est passé de 22 à 29%. Voilà, il faut quand même le noter, cet effort. Marc Lemay, la situation des eaux douces. Oui. En France, en Europe, ça quand même, c'est particulièrement préoccupant, non?
Oui, ça ne s'arrange pas. Alors, tout de suite, d'emblée, comme je lis beaucoup de ce type de rapport, il y a toujours un langage diplomatique, mais il y a quand même des signaux très forts dans ce rapport qui est paru hier. L'Agence européenne de l'environnement estime que pour améliorer vraiment les choses, il faudrait des profonds changements dans les institutions, les pratiques, les technologies, les politiques, les modes de vie et de pensée dominants.
Oui,
donc
c'est...
ça, dans la nouvelle langue européenne, ça a quand même une signification. Oui. Alors, sur l'eau, il y a un certain nombre de progrès qui sont enregistrés, mais là aussi, il faut bien prendre la mesure de ce qui s'est passé dans les 15 prochaines dernières années. Si on a des améliorations en termes de pollution, c'est essentiellement dû au résultat des milliards d'euros qu'on a investis pour construire des stations d'épuration des eaux usées et pour la suppression des phosphates dans les lessives. Ce sont vraiment les deux facteurs dominants. Réussite, amélioration de la réduction des pollutions d'origine industrielle, même s'il reste encore des poches très inquiétantes. Mais l'échec total, c'est l'agriculture et l'aménagement des territoires en lien avec l'usage de sol.
Ouais.
Là, c'est un échec radical.
Qui impacte donc directement.
Qui impacte tout à fait directement. Alors évidemment, la situation est très hétérogène selon les différents États membres. La France, malheureusement, on est un très très mauvais élève.
Oui.
La Cour des comptes en a rendu compte récemment. Et là, d'année en année, on constate une augmentation des taux de nitrate, des taux de pesticides. Alors, un chiffre, un exemple. Dans les 3 dernières années, le montant des pesticides utilisés en France en agriculture a augmenté. Alors que depuis le Grenelle de l'environnement, on avait inventé quelque chose qui s'appelait le plan éco-phyto. Et malheureusement, on note que les quantités de pesticides utilisés en agriculture ne font qu'augmenter. Donc, on les utilise de manière massive. Elles se retrouvent dans l'eau. Et ensuite, bien prendre la mesure que ce qu'on constate aujourd'hui, notamment pour les eaux souterraines, renvoie à des pratiques agricoles il y a 5 ans, il y a 10 ans. Parce qu'il faut tout le temps que ça s'inscrit, etc. Donc ouais. On n'est vraiment pas au bout de nos peines par rapport à ça. Un autre élément, l'ensemble des politiques européennes, ça, les auditeurs ne le savent pas, c'est l'usager domestique qui finance l'essentiel de l'usage de l'eau en agriculture, en industrie. Et comme on est face à des pollutions croissantes dont on ne voit pas le terme, ça va coûter de plus en plus cher de réduire ces pollutions, par exemple pour produire de l'eau potable. Et la question qui va se poser à un moment, outre le fait de pouvoir être condamné parce qu'on ne respecte pas des directives européennes, là, la France est encore malheureusement un très mauvais élève, la question qui se posera à un moment, c'est celle du consentement à payer de l'usager, de la fuite en avant technologique, parce que certes, on peut développer des procédures de plus en plus importantes, mais on ne résout pas le problème.
Axel, sur le mot-clé l'attaque.
Une question toute simple. Le rapport s'intéresse à une période qui va de 2007 à 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement va dans le bon sens en France ou
alors là,
en Europe?
Malheureusement...
Alors, pour l'eau, hein, toujours.
Pour l'eau, bien sûr.
Il y a eu des annonces absolument désastreuses immédiatement en amont du Salon de l'agriculture. Le gouvernement a annoncé que, pour faire droit aux demandes de la profession agricole, il allait mettre un terme à tous les contrôles. La FNSEA se bat depuis des années, on veut plus de normes, on veut plus de contrôles, etc. Tous les signaux, là, sont totalement négatifs et sont totalement en contradiction avec nos engagements communautaires. Alors, nous sommes en 2015, ça devait être l'année. Ça avait démarré en 2010, l'histoire de la directive cadre européenne sur l'eau. C'est en 2015 qu'on devait normalement avoir commencé à reconquérir ce qu'on appelle un bon état écologique et chimique des masses d'eau. 2015, zéro. On repousse à 2021. On repousse à 2027. Et comme on n'y arrivera pas non plus, on devra payer des amendes absolument colossales.
Un courriel de Laurent. J'en ai marre, dit-elle, de ces discours, de ce poids qu'on nous fait porter. Pollution de l'air, pollution de l'eau, préservation de l'environnement. Je fais mon tri sélectif. Je prends le bus pour aller travailler. J'essaie d'avoir une attitude citoyenne. Quel est le poids de mon action quand je vois ce que font les multinationales à travers le monde qui polluent à tout va et sans contrôle? Avec Kempf, pour lui répondre.
En gros, elle a raison. Parce que ce que dit le rapport dans le langage très diplomatique, qu'a souligné Marc Lémé, c'est que, en gros, les politiques qui étaient trop incitatives, les objectifs qu'on se fixe, etc., n'ont pas eu d'effet. Et donc, le rapport dit qu'au bout d'un moment, il faut adopter des réglementations qui s'imposent. Et là, on est dans cette situation où, effectivement, raisonner par objectif et incitation, contribution volontaire ne suffit pas. Un élément aggravant, en quelque sorte, c'est que la nouvelle Commission européenne, avec Jean-Claude Juncker, depuis cet hiver, dit « nous en avons fait assez pour l'environnement, maintenant nos objectifs sont ailleurs, en matière d'énergie ou d'autres, ou de croissance économique, mais pour l'environnement, en gros, on a fait assez. »
C'est Jean-Claude Juncker hein, pour vous. Hein.
Jean-Claude, pardon.
non, Juncker, mais vous l'avez bien dit. En tout cas, Marc Lémé, pour terminer, au vu des résultats, c'est vrai que de véritables objectifs politiques, et puis aussi des citoyens concernés, parce que c'est là le problème, on le verra d'ailleurs avec la montée des eaux tout à l'heure. Hein.
Précisément, les citoyens qui finalement doivent payer pour tout ça, pour un environnement de plus en plus dégradé, vont très probablement s'investir de plus en plus dans les années qui viennent parce que, au vu du constat de faillite dans certains compartiments de l'environnement et particulièrement de l'eau, la seule ressource qui reste aux citoyens aujourd'hui, c'est de s'organiser, de créer des associations, de s'emparer d'instruments du droit et de faire respecter une réglementation qui malheureusement ne l'est pas.
Ouais. Et les mauvais élèves, alors plutôt surprenant, l'Allemagne et les Pays-Bas dans ce domaine?
Oui, alors là, c'est pour partie les Pays-Bas en matière d'élevage, on n'a rien à leur envier. Ouais. Mais alors, si vous voulez, c'est vraiment très hétérogène par rapport au pays. Mais la France, qui se targue par ailleurs d'être un véritable modèle qui donne des leçons à la terre entière, et notamment en matière de gestion de l'eau, est le plus mauvais. Bercy a déjà provisionné 400 millions d'euros pour payer les amendes qui vont nous infliger dans les années qui viennent. Dans l'actuel projet de loi de la décentralisation, un article que personne n'a vu, ce sont les communes qui vont se voir impartir le paiement de ça. Donc l'État se désengage, ce sont les communes et donc les usagers qui vont payer.
80% des sources d'eau douce polluées en Allemagne et aux Pays-Bas. Oui. Et effectivement, en France, on n'a pas de quoi fanfaronner non plus.
Absolument pas.
Dans ce domaine. Marc Lémé, vous publiez Sirvins, le barrage de trop. Là aussi, c'est dans l'actualité et ça va l'être de plus en plus cette semaine. C'est aux éditions du Seuil. Un livre que vous préfacez d'ailleurs à Hervé Kempf. Voilà, ça vient juste de paraître. Merci beaucoup à tous les deux. Et Marc Lémé, si vous voulez rester avec nous pour parler de la montée des eaux, écoutez, vous êtes le bienvenu. On est là jusqu'à 15h. Merci beaucoup, Axel.
À demain.
Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, chez les lémuriens, on peut connaître à l'avance le sexe du fœtus grâce à son flair. Des chercheurs américains ont observé que l'odeur émise par la femelle lémurien différait selon le sexe du petit qu'elle portait. Plusieurs hormones seraient responsables de cette différence de parfum pendant la grossesse. L'étude ne dit pas si les animaux arrivent à percevoir eux-mêmes cette différence. 13 cm de long en érection, 9 cm au repos, ce sont les résultats sur la taille moyenne du pénis d'une étude publiée dans la revue British Journal of Urology International. Elle fait la synthèse de 17 précédentes études regroupant les mesures de plus de 15 000 hommes du monde entier. Les chercheurs rappellent que la mesure d'un pénis se fait depuis l'os pubien jusqu'au bout du gland. Et puis des photos d'une belette chevauchant un pivert qui circule ces dernières heures sur Internet. Elles auraient été prises, ces photos, par un photographe amateur en Angleterre. Mais est-ce qu'un pivert peut vraiment s'envoler avec une belette sur son dos? C'est ce qu'on a demandé à Patrick Hafner, spécialiste des mammifères au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il nous dit ce qu'il en pense.
Je vois mal un pivert décoller avec un animal qui a la moitié son poids sur son dos. Alors maintenant, est-ce qu'effectivement, dans le cas d'une bataille, le pic vert aurait pu emmener avec lui l'animal, mais à ce moment-là, l'animal, on le verrait en train de mordre, mais pas dans la position où il est. Donc tout ça, moi, me paraît assez improbable.
Cette photo qui fait le buzz sur Internet est à voir en tout cas sur la page Facebook de l'émission.